Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant la rédemption. Nous arrivons à l'étude numéro 26 et le titre sera « Du temps présent à la chute de l'Antéchrist ». Je viens maintenant à montrer comme l'œuvre de la rédemption chrétienne se poursuivra toujours depuis le temps présent jusqu'à la chute de l'Antéchrist et à la destruction du royaume visible de Satan sur la terre. Pendant presque toutes les périodes, depuis la chute de l'homme à la destruction de Jérusalem par les Romains, nous avons eu une histoire scripturaire pour nous guider. Depuis lors, jusqu'au temps présent, nous avons eu la prophétie et son accomplissement dans les événements providentiels rapportés par les histoires profanes. Dorénavant, nous n'aurons plus que les prophéties pour nous guider, afin d'insister exclusivement sur les choses très claires. Nous ne savons pas quels événements auront lieu avant le commencement de cette œuvre de Dieu par laquelle le royaume de Satan sera renversé. La plupart des théologiens s'accordent à reconnaître qu'il n'y a que fort peu de choses, si même il y en a, dont l'accomplissement soit prédit avant le commencement de cette belle œuvre de Dieu. Mais quelques-uns pensent que la mise à mort des témoins, selon Apocalypse chapitre 11, versets 7 et 8, n'a pas encore eu lieu. Chers amis, nous avons raison de conclure, d'après les Saintes Écritures, qu'immédiatement avant que Dieu commence cette œuvre, il y aura une période de ténèbres pour ce qui concerne les choses religieuses. Il en a été toujours ainsi avant les grands réveils religieux antérieurs. Quand Christ est venu, les Juifs étaient très dégénérés et même une époque très obscure précéda la réformation. Non seulement cela, mais il semble être prédit dans les Saintes Écritures qu'il n'y aura que fort peu de foi sur la terre au moment de la venue de Christ pour établir son royaume dans le monde. Ainsi, quand Jésus-Christ parle de sa venue pour encourager ses élus qui crient à lui jour et nuit, selon Saint Luc, chapitre 18, verset 7, il ajoute « Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre ?» Ce qui semble supposer une grande prépondérance de l'incrédulité, et cela immédiatement avant la venue de Christ pour venger son Église en souffrance. Bien qu'il puisse être question de la venue de Christ pour le jugement dernier, cela semble avoir particulièrement rapport à sa venue pour délivrer l'Église de ses longues souffrances sous la persécution, ce qui s'accomplira seulement à sa venue pour la destruction de l'Antéchrist. Alors seront accomplies ces paroles qui disent « Jusqu'à quand, Seigneur, qui est saint et véritable, ne juges-tu point et ne venges-tu point le sang de tous ceux qui habitent sur la terre ? Réjouis-toi à cause d'elle, et vous aussi, saints, apôtres et prophètes, oui, réjouissez-vous, car Dieu l'a puni à cause de vous. » Nous sommes maintenant dans un temps de ténèbres pour ce qui est des choses religieuses, c'est vrai. Il y a peu de foi, et par contre, une grande incrédulité il y a sur la terre. Nous voyons présentement, d'une manière remarquable, l'accomplissement de la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 3. Sachez qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs et ils se conduiront selon leur propre convoitise. Et notez encore Jude, versets 17 et 18. Mais vous, mes bien-aimés, est-il dit, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, et comment ils vous disaient que, au dernier temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient selon leur impie convoitise. Oui, les jours deviendront-ils encore plus ténébreux? Eh bien oui. De combien seront plus épaisses les ténèbres avant le commencement de cette grande œuvre de Dieu? C'est à ce qu'on ne saurait dire. Il est probable, d'après les Saintes Écritures, que cette grande œuvre de Dieu s'accomplira en très peu de temps. Quelques-uns seront convertis et deviendront les instruments de la conversion d'autres personnes. L'Esprit Saint de Dieu sera d'accord et d'abord envoyé, l'Esprit Saint de Dieu sera d'abord envoyé pour susciter des instruments. Après quoi, il se servira de ces instruments avec succès. Or, depuis le temps que les sacrifices continuels auront été ôtés et qu'on aura mis l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours, selon Daniel, chapitre 12, verset 11. Ensuite, il ajoute au verset suivant, « Heureux celui qui attendra ce qui parviendra jusqu'à 1335 jours. » Je répète, à 1335 jours. Ce qui laisse supposer que quelque chose de très glorieux suivra la fin de la première période, mais quelque chose de plus glorieux encore aura lieu à la fin de la dernière. J'aimerais montrer à présent comment cette belle œuvre s'accomplira. L'Esprit de Dieu sera abondamment répandu pour le réveil et pour la propagation de la religion, cette foi chrétienne, cette grande œuvre, elle ne s'accomplira pas par l'autorité des princes, ni au moyen de la sagesse des hommes instruits, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est point par armée, ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Notez Zacharie, chapitre 4, versets 6 et 7. De même, le prophète Ézéchiel, parlant de cette grande œuvre de Dieu, dit « Et je ne leur cacherai plus ma face depuis que j'aurai répandu mon Saint-Esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Nous ne savons pas où commencera cette effusion du Saint-Esprit, ni s'il sera répandu dans plusieurs endroits à la fois. Cette effusion du Saint-Esprit de Dieu, quand elle aura commencé, portera de grandes multitudes à abandonner tous ces vices et ces iniquités qui dominent aujourd'hui et amènera le réveil de cette religion, de cette foi vivante qui est si méprisée et si tournée en ridicule. L'œuvre de conversion commencera et se poursuivra comme cela n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. Dieu, en envoyant son Saint-Esprit, suscitera des hommes pour servir d'instruments dans l'accomplissement de cette grande œuvre. Il les remplira de connaissances et de sagesse et d'un zèle fervent, je répète, d'un zèle et d'une volonté fervente pour avancer le royaume de Dieu, pour amener le salut des âmes, à prêcher l'Évangile dans tout le monde. L'évangile commencera alors d'être annoncé avec plus de clarté et de puissance qu'il ne l'a jamais été jusqu'ici. Cette grande œuvre, elle s'accomplira par la prédication de l'évangile, ainsi que cela est dit dans des révélations, donc Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 8. L'évangile sera donc prêché et propagé dans tout le monde. Cette effusion du Saint-Esprit de Dieu n'amènera pas la destruction visible de Satan avant d'avoir suscité de sa part une opposition puissante et violente. L'Écriture sainte est précise à cet égard-là. Quand Christ viendra ainsi dans la gloire, quand la destruction de l'Antéchrist s'approchera et que le royaume de Satan commencera à être ébranlé, le pouvoir du royaume des ténèbres se soulèvera et fera une grande résistance. Ainsi, quand la sixième fiole, quand on parle de fiole, d'autres versions parlent de coupe. Alors, quand la sixième coupe ou fiole aura été versée pour dessécher le fleuve d'Euphrate, souvenez-vous, très important, et vous pouvez, si vous avez Internet, demander à écouter toute la série sur les prophéties bibliques de la fin des temps, et là, il est expliqué en beaucoup plus de détails tout ce que vous venez d'entendre. Donc, à la destruction de Babylone, de la Babylone spirituelle, les puissances de l'enfer seront très alarmées et ils s'encourageront les unes les autres à s'opposer au royaume de Christ avant que la septième fiole ou la septième coupe soit versée. Celui-ci les renversera complètement et d'une manière définitive. Il est dit dans Die Offenbarung, et j'ai vu sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits immondes. Ils étaient semblables à des grenouilles et qui s'en vont vers les rois de la terre pour les assembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14. Il semble donc que ce sera le grand et dernier effort de Satan pour sauver son royaume de la ruine, quoique il soit possible qu'il en fasse aussi d'aussi grand vers la fin du monde pour regagner son pouvoir, évidemment. Quand le Saint-Esprit commencera d'être abondamment répandu, quand Dieu verra que des multitudes iront à Christ de toutes les nations, quand les fondements et les piliers de son empire seront prêts d'être promptement renversés, tout l'enfer sera dans une grande alarme. Voyez-vous, Satan a toujours eu peur de voir son royaume renversé. Si Satan était effrayé à la pensée d'être chassé de l'Empire romain, combien plus redoute-t-il d'être chassé du monde entier? Il semble que toutes les forces de l'Antéchrist, du mahométisme, du paganisme, toutes les fureurs du royaume de Satan dans le monde entier s'uniront pour cette grande opposition. Et c'est pour cela qu'il est parlé dans Apocalypse chapitre 16, verset 14, d'esprits immondes qui s'en vont vers les rois de la terre pour les assembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et il est dit que les esprits sortiront de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, c'est-à-dire que l'esprit de la papauté, celui du mahométisme et celui du paganisme seront tous réunis. La bête, cela signifie l'antéchrist, et le dragon, dans ce livre, représente le diable régnant sur son empire païen. Le faux prophète représente quelquefois le pape et son clergé, mais ici, il semble être question de Mahomet, que ses spectateurs appellent également le grand prophète de Dieu. Ce sera là, en quelque sorte, comme les dernières luttes de l'ancien serpent, une bataille dans laquelle il combattra comme quelqu'un qui a perdu presque tout espoir. Nous ne savons pas exactement quelle forme prendra cette opposition. Il en est parlé comme d'une bataille. Elle est appelée le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il y aura, d'une façon ou d'une autre, une grande lutte entre le royaume de Satan et l'Église, et probablement l'opposition se manifestera de toutes les manières possibles. Et il est hors de doute qu'il y aura une grande opposition au moyen de la force matérielle. Les princes de la terre, qui sont du parti du démon, se donneront tous la main, car il est dit « Alors j'ai vu la bête et les rois de la terre et leur armée. Ils étaient tous assemblés pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval blanc et contre son armée. » Apocalypse chapitre 19, verset 19. Et très probablement, l'opposition se manifestera par des discoureurs subtils, par des raisonnements charnels, par des persécutions, oh terribles, par des violentes accusations, par des ruses et des artifices. Le démon, alors, aura recours à toute sa ruse et à sa force, et ceux qui appartiennent à son royaume s'uniront pour faire une opposition violente contre cette sainte religion qu'ils verront prévaloir dans tout le monde. Mais Christ et son Église remporteront une victoire entière et complète sur tous leurs ennemis. Ceux-ci seront complètement battus et renversés à la suite du dernier effort qu'ils auront fait. Quelle belle description il nous est donnée de la manière de Christ et de son Église, alors que les siens sortiront avec sa sainte parole et son esprit contre les pouvoirs de l'enfer et de la terre rassemblés contre lui. Notez Apocalypse chapitre 19, verset 11. Et pour représenter quelle grande victoire ils remporteront et comment ils renverseront leurs ennemis, il est dit que les oiseaux sont assemblés pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants. Apocalypse chapitre 19, versets 17 et 19 et 18. Et plus bas, dans les versets suivants, nous avons une description de la victoire et de la défaite. C'est à l'occasion de cette victoire que la septième fiole ou coupe sera versée, car il est dit de la grande armée qui sera réunie contre Christ, il les assembla au lieu qui est appelé, écoutez bien, en hébreu, Armageddon, dit Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 16, verset 16. Excusez-moi, je dois prendre quelque chose pour la gorge. Merci Seigneur. Ensuite il est dit, le septième ange a versé sa fiole ou sa coupe dans l'air et il sortit du temple du ciel une voix tonnante qui produisait du trône et qui disait, tout est fait, c'en est fait de Satan et de ses héros. Et quand cette victoire est obtenue, tout en elle est terminé. La plus grande et la dernière opposition de Satan est surmontée. Toutes ses mesures sont déjouées. Les piliers de son empire sont brisés et sur le point de tomber. Le diable est tout à fait déconcerté et confus et il ne sait plus que faire. Alors il voit son empire antichrétien dans le monde entier et celui de Mahomet et celui des païens qui vont tous tomber en ruine. Il est captif lui-même avec ses instruments les plus puissants. Maintenant est accompli ce qui a été pendant si longtemps l'objet de l'attente, de l'espérance et des cris de l'Église de Dieu lorsqu'il a dit « Combien longtemps, ô Seigneur, saint et fidèle, ce temps est maintenant arrivé. Alléluia !» L'ange qui a placé son pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, et élevé la main vers les cieux, a juré par celui qui vit d'éternité en éternité que quand le septième ange sonnerait de la trompette, il n'y aurait plus de temps. Et à présent, le moment est venu, la septième trompette sonne, et simultanément, la septième fiole ou coupe est versée, indiquant que tout est présentement terminé pour ce qui concerne le renversement du royaume visible de Satan sur la terre. Cette victoire sera de beaucoup la plus grande qui ait jamais été obtenue sur Satan et sur ses adhérents. Par ce coup-là, la pierre coupée de la montagne sans main frappera la statue d'or, souvenez-vous, la statue d'or, d'argent, de fer, d'airain et d'argile, rappelez-vous, de comment est-ce qu'il s'appelait, le pharaon, ça me reviendra, la statue d'or de pharaon, d'argent et de fer, d'airain et d'argile, tout cela réduit en pièces. Ce sera le dernier coup de grâce pour la statue de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, de sorte qu'elle deviendra comme la paille de l'air en été. Il y aura donc dans cette victoire un grand déploiement de la puissance divine. Christ se montrera à cette occasion-là dans son caractère de roi des rois et seigneur des seigneurs, selon Apocalypse chapitre 16. Il mettra ses ennemis en pièces, et même les plus forts et les plus orgueilleux d'entre eux, ils seront brisés comme le vase d'un potier. Par suite de cette victoire, le royaume visible de Satan sur la terre sera enfin détruit. Quand Satan aura été vaincu dans cette dernière bataille, l'Église de Christ en finira aisément avec lui, de même que lorsque Josué et les enfants d'Israël ont eu obtenu cette grande victoire sur les cinq rois des Amoréens. Quand le soleil s'arrêta, c'était authentique, c'était un miracle énorme. Quand le soleil s'est arrêté et que Dieu a envoyé de la grêle contre leurs ennemis, il fut très facile aux Israéliens de soumettre leur ville et leur pays, et il en fut de même après l'autre grande lutte dans laquelle Josué a été engagé contre une grande multitude aux eaux de Mérom. Ainsi, après cette glorieuse victoire de Christ et de son Église sur leurs ennemis, sur les pouvoirs principaux du royaume de Satan, ils détruiront ce royaume dans toutes ses villes et ses divers pays. Après cela, la sainte parole de Dieu aura un prompt succès dans le monde. Ainsi, il est dit que lorsque la septième fiole est versée, les villes des nations tomberont et toutes les îles s'enfuiront et les montagnes ne furent plus trouvées. Apocalypse chapitre 16, versets 19 et 20. Comme le royaume de Satan sur la terre sera alors détruit, il est dit que la septième fiole sera versée dans l'air qui, dans l'Écriture sainte, est représenté comme étant le siège principal de son royaume, car il est appelé le prince de la puissance de l'air, selon Éphésiens chapitre 2, verset 2. Je mentionnerai les choses particulières qui le constitueront principalement, sans prétendre déterminer dans quel ordre elles se passeront, ni si elles s'accompliront en même temps. Donc, les hérésies, l'incrédulité et les superstitions parmi ceux qui auront été sous la lumière de l'Évangile seront abolies toujours. L'incrédulité en particulier, qui est à présent si hardie et si pleine de confiance, elle sera abolie et elle disparaîtra. Tous seront d'accord sur les grandes et importantes doctrines de l'Évangile. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre en ce jour-là. Il n'y aura qu'un seul Éternel et son nom ne sera que un, selon Zacharie chapitre 14 verset 9. Alors tous les cultes superstitieux seront abolis et on sera d'accord pour adorer Dieu comme il veut l'être. Et je leur donnerai un même cœur et un même chemin afin qu'ils me craignent à toujours pour leur bien et le bien de leurs enfants après eux. Jérémie, chapitre 32, verset 39. Alors, le royaume de l'Antéchrist sera complètement renversé. Il sera proclamé que Babylone est tombée. Elle est tombée. Alors le septième ange sonnera dans la trompette en l'époque désignée comme par ces mots dans chapitre 12 de Daniel, verset 7. Il est dit un temps, des temps et une moitié de temps. Tout cela, vous le trouverez sur la série des prophéties bibliques que vous trouverez sur Internet. 3xw.bibleexplique.ch et ça complétera cette étude de beaucoup. Je répète, vous comprendrez mieux ce que je viens de dire. Un temps, des temps et une moitié de temps, selon Daniel chapitre 12, verset 7. Et il n'y aura plus de temps. Alors sera accompli concernant l'Antéchrist ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre, je crois, 18 de la Babylone spirituelle, le gouvernement romain idolâtre qui a été pendant tant de siècles le grand ennemi de l'Église chrétienne, d'abord sous le paganisme et ensuite sous la papauté. Cette ville orgueilleuse qui s'élevait jusqu'aux cieux dans son orgueil et dans sa fierté, cette ville cruelle et sanguinaire, elle sera enfin détruite de fond en comble. Alors sera accompli Ésaïe chapitre 25 verset 5. Car il abaissera tous ceux qui habitent au lieu haut, élevé, il renversera la ville de haute retraite, il la renversera jusqu'en terre, il la réduira jusqu'à la poussière. Elle sera renversée avec violence comme une grande meule de moulin jetée à la mer et on ne la trouvera plus et elle deviendra l'habitation des démons, la retraite de tout mauvais esprit. Les rois de la terre qui précédemment avaient donné leur pouvoir et leur force à la bête haïront maintenant la prostituée, ils la désoleront, ils la dépouilleront et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Apocalypse chapitre, je crois, 17, verset 16. Oui, 17. Apocalypse 17, verset 16. Le royaume diabolique de Mahomet sera complètement renversé. Les sauterelles et les cavaliers, selon Apocalypse chapitre 19, ont leur temps marqué ou limité. Et le faux prophète sera pris et détruit. Et alors, bien que le mahométisme se soit tellement répandu dans le monde et qu'il ait été soutenu par un si puissant empire, eh bien cette fumée qui s'était élevée de l'abîme sans fond sera complètement dissipée à la lumière de ce jour glorieux et l'empire mahométan tombera au son de la grande trompette qui retentira alors. L'incrédulité des Juifs finira enfin. Pour si obstinés qu'aient été les Juifs depuis environ 1700 années pour rejeter Jésus-Christ, quoique les exemples de conversion individuelle aient été très rares depuis la destruction de Jérusalem, et bien qu'en dépit des enseignements les plus clairs de leurs propres prophètes, ils aient continué d'approuver la cruauté de leurs ancêtres en crucifiant Christ. Cependant, quand le jour viendra, le voile épais qui couvre leurs yeux sera enlevé 2 Corinthiens 3, verset 16, la grâce divine changera et fondera leur cœur. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi qu'ils auront percé, et ils en mèneront en deuil, comme quand on mène le deuil d'un fils unique, et ils en seront en amertume, comme quand on est en amertume à cause d'un premier-né. Zacharie chapitre 12, verset 10. Et alors la maison d'Israël sera sauvée. Les Juifs, dans leur dispersion, renonceront à leur ancienne incrédulité. Leur cœur sera miraculeusement changé et ils auront horreur de leur scepticisme ainsi que de leur endurcissement qui était du passé. Ils s'élanceront donc vers Jésus, leur Messie. Ils seront pénitents et humbles, le reconnaissant, leur Messie, avec joie, comme leur unique Sauveur, et d'un cœur et d'une voix, ils célébreront ses louanges parmi toutes les nations. Il n'y a rien qui soit prédit avec beaucoup plus de certitude que cette conversion nationale des Juifs, selon Romains chapitre 11. Il y a également plusieurs passages de l'Ancien Testament qui ne peuvent être interprétés dans aucun autre sens. Outre les prophéties sur la vocation des Juifs, nous avons une garantie providentielle remarquable de l'accomplissement de ce grand événement dans une espèce de miracle continuel, en ce qu'ils se sont toujours conservés jusqu'au aujourd'hui, comme étant une nation distincte malgré leur dispersion. Or, le monde ne présente l'exemple de rien de semblable, car la main de la Providence est certainement très visible en cela. Alors qu'il sera appelé cet ancien peuple, qui pendant si longtemps a été l'unique peuple de Dieu pour l'être de nouveau, il ne sera jamais plus rejeté. Ils seront alors réunis aux non-juifs, alors aussi les débris des 10 tribus, où qu'ils soient, et bien qu'ils aient été rejetés depuis plus longtemps que les juifs, seront réunis à leurs frères. Les prophéties d'Osée, en particulier, font supposer que dans les temps glorieux de l'Église qui doit venir, Juda et Éphraïm, ou Juda et les 10 tribus, se rassembleront et ils s'uniront pour ne plus former qu'un seul peuple, comme ils l'ont été autrefois sous David et sous Salomon. Notez Osée, chapitre 1, verset 11. Bien que nous ne sachions pas à présent dans quel temps aura lieu la conversion d'Israël, nous pouvons pourtant voir par l'Écriture sainte que ce sera avant que la gloire de la portion de l'Église comprenant les non-juifs, parce qu'il est dit que leur conversion sera comme une résurrection d'entre les morts pour les non-juifs, selon Romains, chapitre 11, versets 12 à 15. Alors sera aussi renversé l'empire païen de Satan. Il est promis dans plusieurs passages que le paganisme sera aussi détruit. Dieu a dit que les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Jérémie chapitre 10 verset 11, et qu'il détruira complètement l'idolâtrie. Ésaïe chapitre 2 verset 18. Alors les nombreuses nations de l'Afrique seront visitées par une glorieuse nouvelle et ils seront délivrés de toutes leurs ténèbres et elles deviendront les pays d'Afrique un peuple civilisé, chrétien, intelligent et saint. Nous avons tout lieu d'attendre qu'il en sera de même pour les grands et populeux pays de l'Orient, de l'Extrême-Orient, qui sont aujourd'hui principalement habités par les adorateurs du démon. Alors le royaume de Christ sera établi dans ces vastes contrées.
Maintenant que j'ai montré en quoi consistera ce renversement du royaume de Satan, je montrerai son universalité. Le royaume visible de Satan sera renversé et le royaume de Christ établi sur ses ruines partout dans le monde habitable. Alors sera accomplie la promesse qui a été faite à Abraham, que en lui et sa semence, toutes les familles de la terre seraient bénies et que Christ serait le désiré des nations. Notez Agéi, chapitre 2, verset 7. Alors le royaume de Christ s'étendra dans le sens le plus rigoureux et le plus littéral, et il s'étendra à toutes les nations et à toute la terre. Il y a plusieurs passages de l'Écriture sainte qui n'admettent point d'autres interprétations. Qui peut en concevoir de plus universel que Ésaïe, chapitre 11, verset 9, où il est dit que la terre aura été remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer des eaux qui la couvre. Ce qui revient à dire que de même qu'il y a aucune portion du fond de la mer qui ne soit recouverte d'eau, de même il n'y aura aucune portion du monde qui ne soit recouverte de la connaissance de l'Évangile. Ainsi il est prédit que tous les bouts de la terre regarderont à Christ et seront sauvés. Ésaïe chapitre 45 verset 22. Et pour montrer que ces paroles doivent être prises dans le sens le plus général, il est dit dans le verset suivant, « J'ai juré par moi-même, et la parole est sortie en justice de ma bouche, et elle ne sera point révoquée, que tout genou se pliera devant moi, et que toute langue jurera par moi. » C'est ainsi que l'expression la plus universelle est employée également, afin que le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous les cieux soient donnés au peuple des saints du souverain. Notez Daniel chapitre 7 verset 27. Quand le démon fut expulsé de l'Empire romain, parce que c'était la portion la plus remarquable et la plus importante du monde, et que les autres nations n'étaient que fort peu de choses en comparaison, il est dit qu'il fut précipité des cieux en la terre, selon Apocalypse chapitre 12, verset 9. Mais il est dit également qu'il sera aussi chassé du ciel et emprisonné dans l'enfer, selon Die Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. C'est donc là la plus grande de toutes les révolutions, aussi est-il dit que alors la septième fiole ou la septième coupe fut versée et il se fit un terrible tremblement qu'il n'y en a eu jamais de semblable depuis que les humains ont été sur la terre. Apocalypse chapitre 16, versets 17 et 18. Et c'est là la troisième des grandes dispensations providentielles qui dans l'Écriture sainte sont comparées à la venue de Christ pour le jugement. Apocalypse chapitre 16 verset 15. Il est dit dans ce passage que après la sixième fiole et après que les armées de Satan se seront rassemblées pour leur grand combat et immédiatement avant que Christ ait remporté sur eux sa glorieuse victoire, voici, je viens comme le larron. Bienheureux sera celui qui veille et qui garde ses vêtements. Cela est appelé la venue de Christ. En parlant de l'Antéchrist, il est dit, et alors le méchant sera révélé, mais le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par son illustre avènement, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et notez aussi Daniel, chapitre 7, verset 13 et 14. La grande résurrection spirituelle de l'Église de Dieu qui l'accompagne ressemble plus qu'aucune autre à la grande résurrection de la fin du monde, selon Apocalypse, chapitre 20, verset 4. de terribles jugements et de grandes vengeances viendront alors sur les ennemis de Dieu. À l'introduction de cette dispensation, il est hors de doute que la terrible main de Dieu sera d'une manière visible contre les blasphémateurs, contre les infidèles, contre les hérétiques obstinés et d'autres ennemis de Christ. Et leur destruction sera accompagnée de signes remarquables de la colère et de la vengeance de Dieu. Cette dispensation sera particulièrement accompagnée de terribles jugements contre l'Antéchrist. Les cruels persécuteurs dans l'Église de Rome seront détruits d'une manière terrible, ce qui est rendu par l'image de la prescription de l'Antéchrist dans les flammes, selon Daniel chapitre 7 verset 11, et dans l'étang ardent de feu et de soufre, selon Apocalypse chapitre 19 verset 20. Alors cette église persécutrice, elle souffrira des jugements de Dieu. Des jugements de Dieu qui seront bien plus terribles que les persécutions qu'elle a dirigées contre les saints. Apocalypse chapitre 18 verset 6 et 7. Les jugements que Dieu fera venir sur les ennemis de l'église sont si grands qu'ils sont comparés à l'envoi d'une grêle prodigieuse d'un poids d'un talent, comme cela est dit à l'occasion de la septième fiole, Apocalypse chapitre 16, verset 21. Car il est dit, et il descendit du ciel sur les hommes une grêle prodigieuse du poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car tout a été détruit, car la plaie qu'elle a fait fut fort grande. Alors sera foulée cette cuve de vin dont il est question dans Apocalypse chapitre 16. Non, écoute, excusez-moi, Apocalypse 14, versets 19 et 20. Cela mettra fin à l'état de souffrance de l'Église et sera accompagné de ses actions de grâce et de ses louanges. L'Église, sauf quelques moments de relâche, a été dans un état constant de souffrance depuis la résurrection de Christ jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, elle sera finalement au terme de ses douleurs. Il est vrai qu'après cela, vers la fin du monde, l'Église sera très menacée. Mais il est aussi dit que ce sera seulement pour fort peu de temps, car de même que les jours de repos ont été de très courte durée pour l'Église avant la fin de ses afflictions, de même aussi ce qu'elle souffrira après cela sera de très courte durée. Alors tous les autres égards, les jours d'affliction et de persécution pour l'Église seront décidément passés. Et maintenant l'Église oubliera sa tristesse qui sera suivie de cris de louange et de triomphe. Et ces louanges s'élèveront à Dieu de toutes les portions de la terre, selon Ésaïe, chapitre 60, verset 20, et 61, verset 10 et 11. Et elles ne rempliront pas seulement la terre, mais aussi les cieux, selon Ésaïe, chapitre 42, verset 10 à 12. L'Église sur la terre et celle dans les cieux s'uniront d'un même cœur pour chanter les louanges de Dieu. Il est hors de doute que ce sera un temps de joie et de louange parmi les saints prophètes, parmi les apôtres et les autres saints dans tous les cieux. Ô ciel, est-il dit, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous aussi, saints apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car Dieu l'a puni à cause de vous. Apocalypse chapitre 18, verset 20. Voyez comme ces louanges seront universelles. Ô cieux, Réjouissez-vous avec chant de triomphe, car l'Éternel a opéré. Lieux bas de la terre, jetez des cris de réjouissance. Montagnes, éclatez de joie avec chant de triomphe. Et vous aussi, forêts et tous les arbres qui étaient en elles, parce que l'Éternel a racheté Jacob et s'est manifesté glorieusement en Israël. Ésaïe, chapitre 44, verset 23. Voyez donc quelles louanges s'élèveront vers Dieu à cette occasion de la part de l'Église universelle dans les cieux et sur la terre. Mes chers amis, pour terminer notre étude d'aujourd'hui, disons que cette dispensation, plus que toutes les précédentes, ressemble à la venue de Christ pour le jugement, en ce qu'elle met un terme à l'état antérieur du monde et qu'elle introduira le royaume éternel de Christ, du Messie. Alors sera détruit le royaume visible de Satan qui avait subsisté depuis la construction de Babel. Les cieux et la terre passeront, et les nouveaux cieux et la nouvelle terre leur succéderont, revêtus d'un état plus glorieux que celui des précédents. Voilà donc comment j'ai montré que l'œuvre de la rédemption par Christ s'est poursuivie et a porté ses fruits durant les jours de l'affliction de l'Église chrétienne à partir de la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à la chute de l'Antéchrist et de la destruction du royaume visible de Satan. Chers amis, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose d'important pour votre édification personnelle et aussi pour vous encourager. Écoutez bien, mes chers amis. Surmontez dans la joie de Jésus-Christ vos craintes et vos chimères. Ainsi guériront toutes vos plaies et vos blessures. Rejetez tout sentiment d'impuissance ou d'insuffisance. Oubliez vos heures, vos problèmes pénibles et vos conflits et mettez en Jésus-Christ votre confiance. Aimez-le et ayez recours à lui seulement. Votre vie de disciple, elle ressemble à une course d'obstacles. Courez de façon à remporter le prix. Et le prix, ce n'est pas seulement ce que votre cœur souhaite naturellement, mais c'est surtout Jésus-Christ qui est la joie, qui est le ciel de votre âme. Que penseriez-vous, mes chers amis, d'un coureur qui se coucherait par terre, découragé au premier obstacle? Franchissez donc l'obstacle et avant, sautez. Le Seigneur, il est donc votre entraîneur et en même temps, il est aussi votre but final. Gloire à Dieu, louange à l'Éternel. Et chers amis, je ne vais pas faire une prière spéciale, car je vous dirai simplement et humblement. Normalement, j'aurais pas pu vous parler comme je l'ai fait. Vous vous rappelez, je suis plus très, très jeune à 90 ans. Et je pensais pas. Et souvent, je pense que je ne pourrais plus parler. Eh bien, j'ai prié. Et bien sûr que certains d'entre vous vont penser, ce gaillard qui est très âgé, il a eu toute une série de miracles dans sa vie. Il a été miraculé plusieurs fois. Il a été plusieurs fois entre la vie et la mort. Ce n'est pas normal que Dieu l'exauce toujours. Mais, chers amis, je ne suis pas une exception. Mais non. J'ai une vie très dure. Si vous saviez, vous ne le croiriez pas. Je crois que ceux qui sont à Genève, il y a une prison dorée, ça s'appelle Chandolon. Eh bien, ceux qui sont dans cette prison ont une vie beaucoup plus agréable que celle que je mène depuis une vingtaine d'années et plus. Depuis 28 ans, j'ai jamais plus été en vacances. Je vais à la poste 4 fois par semaine pour faire les paiements, pour faire les commissions, et je reprends le bus pour monter. Et donc, plus jamais j'ai revu le bord du lac. Je ne vais à nulle part. Et je vous ai dit que j'ai plus jamais eu un jour de vacances. Il est aujourd'hui jour de congé, l'Ascension. Et je fais ce CD maintenant, avant le repas de midi. Et le Seigneur a permis que je puisse le parler plus ou moins clairement ou audiblement. C'est un miracle. Et vous, mes chers amis, vous êtes ses enfants. Ne croyez pas et ne croyez jamais que Dieu fait des exceptions, qu'il est comme nous humains, nous avons nos privilégiés et les autres nous les détestons. Non, non, non. Dieu vous aime également la même chose. La même chose. Et si vous priez maintenant, parce que vous avez un gros problème, vous avez du chômage, vous souffrez, vous avez des douleurs, je ne vais pas vous mentir. Je ne peux pas me permettre d'être à mon très grand âge avant d'aller au cimetière bientôt, de vous dire des mensonges. J'ai pas le droit. C'est trop terrible. Eh bien, priez. Priez. Même si Dieu, Jésus, ne répond pas immédiatement, en claquant des doigts, mais il répondra. Croyez-en. Croyez-moi. Eh bien, je prie maintenant pour vous simplement quelques mots. Seigneur, bénis ceux qui ont écouté ce message. Bénis-les richement. Ô Seigneur, aie compassion, aie pitié pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont désespérés, pour ceux qui sont déprimés et pour quelques-uns qui sont même prêts à se suicider. Viens à leur secours, je t'en supplie, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh, aie pitié, s'il te plaît, Seigneur, et je vous demanderai. Prions les uns pour les autres. N'oubliez jamais cela. Et maintenant, j'élève mes bras. Je loue l'Éternel. Je dis au Seigneur Jésus que je vous aime comme lui vous aime. Et je vous enlace et je vous embrasse. tous avec tout mon amour. Soyez bénis. Et maintenant, je vous mets quelques chants d'un très très lointain passé, puisque je n'ai plus tout à fait 21 ans. Vous l'avez compris. Eh bien, évidemment, j'ai enregistré ça il y a très, très, très longtemps. Que le Seigneur vous bénisse.
D'innombrables groupes se sont formés, aussi bien des grandes chorales, des prédicateurs se sont révélés, et puis les quartets qui étaient nés dans les années 20 et 30, comme le Golden Gate Quartet, ont continué et avec une nouvelle manière de chanter. Il y a eu énormément de ces quartets masculins, d'abord, ensuite féminins, mais d'abord masculins. Et un des plus célèbres, peut-être, qui a donné le ton à tous ceux qui allaient suivre, a été les Soul Stirrers.
Me, Lord, always, in always, thy service, Dominero, every day, always, I'm willing, always, willing to run, always, all the way, always, always. If I fall through while I'm trying, don't be angry, let me stay, I am willing.
Et c'était un gospel cette fois, composé par peut-être le chanteur du groupe des Soul Stirrers, un chanteur merveilleux, vous avez pu le constater, l'entendre, il s'appelait Robert Harris. Et il a donné le ton pour tous ceux qui ont suivi, et avec les autres membres des Soul Stirrers qui lui répondaient, qui faisaient un ensemble absolument parfait, avec une façon, c'est vrai, quelque peu différente de ce qu'on pouvait entendre dans les années 30, des quartets qui les avaient précédés, une façon déjà plus, qu'on appelait plus gospelisante, en quelque sorte, plus rythmée. Et puis là, on ne faisait pas tellement référence à la Bible, on s'adressait au Seigneur, Lord, I'm willing to run all the way, je suis prêt à partir, à courir tout le long du chemin, à monter, à grimper des montagnes, si tu me le demandes, etc. Oui. Aller chanter le dimanche matin avec leur famille, avec leur mère, à l'église. Et la plupart, ça vient de là, ça vient de ce qu'ils continuent d'appeler l'église noire. Alors, au cours de ces années, de ces années 50 et jusqu'à peu près au milieu des années 60, ces groupes sillonnaient tous les États-Unis avec plus ou moins de succès. Et il y en a eu de très connus, d'autres un peu moins. Et dans chacun de ces groupes, il y avait des chanteurs tout à fait exceptionnels, comme dans celui qu'on va écouter maintenant, qui s'appelait les Harmonizing Four, qui datent de la même période aussi, formés à peu près en même temps que ceux qu'on vient d'entendre, et avec une très belle voix de basse d'un chanteur qui s'appelait Jimmy Jones.
Get over, walking, just like, into the land, walking, just like,
Jimmy Jones, et pour deux spirituals traditionnels, Motherless Child et In Jerusalem. Vous savez que les anciens esclaves s'étaient totalement identifiés au peuple hébreu chassé d'Égypte vers la terre promise, et vers Jérusalem. Et ce sont des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans les spirituals. Et parmi ces groupes masculins, ces quartets masculins, sont venus de véritables très très grands chanteurs. Et certains, issus de ces groupes ou de certaines chorales, ont fait des carrières en soliste ou comme prédicateurs au sein d'une église, auprès d'une congrégation. Et les gens venaient de centaines de kilomètres à la ronde pour suivre le service de tels prédicateurs charismatiques comme celui qu'on va écouter maintenant.
I got a mother done gone on. I got a mother done gone on. Makes me feel like I can't be wrong. I got a mother done gone on. Got a mother done gone on. It makes me feel feel like my time ain't long. Well, the bell keep a tolling, tolling. The bell keep a tolling, tolling. Ooh, make me feel like my time ain't long. Yes, I know. The bell keep a tolling. Child, the bell keep a tolling. It makes me feel. Father gone on. Makes me feel like my time ain't long. Father gone on. Father gone on. Makes me feel like my time ain't long. Ooh, hurts keep a keeper rolling, rolling. The hurts keep a rolling, rolling. And that made me feel, to feel like my time ain't long. Lord, Lord, the hurts keep a rolling, rolling. The hurts keep a rolling. The king me feel like my time ain't long.
Très grande chanteuse Marianne Williams. Ça, c'était plutôt vers la fin de sa carrière. Elle est malheureusement disparue depuis quelques années.